Bonsoir à tous et bienvenue pour nos conférences mensuelles de l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc c'est avec plaisir que nous recevons du public encore un peu clairsemé parce que nous avons toujours des contraintes sanitaires, mais nous sommes très heureux d'accueillir du public et d'accueillir des internautes sur YouTube. Nous continuons à diffuser nos conférences sur la chaîne YouTube de l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc pour ceux qui sont dans la salle, vous aurez moyen à la fin de la présentation de ce soir d'intervenir, de poser des questions, faire des commentaires. Et pour les internautes qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez mettre vos commentaires, poser des questions sur le chat. Et moi, je suivrai le chat durant la conférence et je retranscrirai à notre orateur les commentaires et les questions que j'y trouverai. Et donc, je vous annonce pour la prochaine conférence, le mois prochain, elle sera donnée par notre collègue de l'Institut d'astrophysique de Paris, Henry McCracken, qui nous parlera de grandes structures et de l'univers primitif, notamment avec les télescopes spatiaux, James Webb et Euclide. Et pour ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Brice Ménard ici, donc à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc Brice, tu es professeur au département de physique et d'astronomie de l'Université Johns Hopkins à Baltimore, un département qui m'est cher, moi aussi j'ai eu le plaisir d'y travailler il y a quelques années. Et donc, tu as fait ta thèse avant, ici même, à l'Institut d'astrophysique de Paris, donc, que tu as soutenu, là aussi, il y a quelques années, pareil, ici même. Et donc, par la suite, tu as travaillé à différents endroits, Princeton aux États-Unis, Toronto au Canada, Tokyo au Japon, à différents endroits. Là, tu es pour un an en séjour en France à l'École normale supérieure. Tes sujets d'études, donc, c'est l'astrophysique et puis l'étude de tout un tas de données en appliquant des méthodes statistiques assez élaborées que tu appliquais à différents domaines, notamment la matière noire autour des galaxies, le milieu interstellaire, le milieu intergalactique, l'étude du gaz, des poussières, les décalages vers le rouge, les mesures de distance extragalactique. Et tu as développé des recherches automatiques pour sortir donc des informations dans des jeux de données complexes, en appliquant ça à différentes thématiques, également sur la sismologie terrestre, hein, je crois, donc au-delà de l'astrophysique. Tu enseignes donc à l'Université Johns Hopkins en enseignant donc l'astrophysique et l'analyse de données. Et donc ce soir, eh bien, tu vas nous présenter une conférence intitulée « Astrophysique et intelligence artificielle ». Donc je t'en prie.
Je voudrais remercier l'Institut d'astrophysique de Paris pour organiser cette série de conférences à grand public qui est très intéressante. Aujourd'hui, je vais vous parler d'astrophysique et d'intelligence artificielle. Comme vous le savez peut-être, l'analyse d'images a été quelque chose de clé, de très important dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Je vais en parler aujourd'hui. Et en parallèle de cela, en astrophysique, bien entendu, l'analyse d'images est quelque chose de fondamental, quelque chose qui est à la base de l'astrophysique. Donc on va voir aujourd'hui comment un petit peu dans ces deux domaines les choses ont évolué au cours des 20 dernières années. Alors je vais commencer par vous montrer quelques images d'astronomie, des images qui sont très connues pour certaines, que vous connaissez peut-être, des images qui pour la plupart sont magnifiques. On voit par exemple ici une distribution de gaz dans notre galaxie. Voici la nébuleuse du Crabe, qui est une étoile qui a explosé, qui a été vue en 1054, il y a plus de 1000 ans, il y a 1000 ans, par les Chinois, qui a été visible à l'œil nu. Voici une galaxie proche de la nôtre. Voici une distribution de poussière dans une galaxie proche. On peut continuer avec plein d'autres images comme celle-ci, zone de formation d'étoiles dans notre galaxie. Ces images sont très belles, elles sont souvent très colorées, et pour beaucoup, ce sont les images qui vraiment nous attirent vers l'astronomie. Quand on les voit, on a envie d'en voir plus, on a envie de comprendre les choses de plus près. Et ce qui est intéressant, ce qui est peut-être une surprise pour beaucoup d'entre vous, en fait, c'est que ces images qui sont les plus belles en astronomie, sont les images qui sont les plus dures à analyser. Et en pratique, on extrait en fait seulement une toute petite partie de l'information de ces superbes images. Okay? Donc en fait, cette richesse qui fait la beauté des images, d'un autre côté, c'est un vrai challenge quand il s'agit d'analyser les données. Et je vais vous montrer un exemple dans un autre régime. Si je prends cette image, elle est peut-être moins belle que les précédentes. Ce qu'on voit ici, donc, c'est une image du ciel profond qui a été prise avec un télescope qui est sur Terre. Et là, ce que vous voyez, c'est tout un tas de galaxies, mais la résolution n'est pas très bonne, parce que donc, quand on observe depuis la Terre des objets très petits, très lointains, la turbulence qui est due à l'atmosphère va rendre ces images un petit peu moins précises. Et en fait, quand on analyse ce type d'image, par contre, là, on n'a aucun problème. Okay? On peut extraire quasiment toute l'information qu'on veut extraire de ces données. Et la raison est simple, c'est que quand je regarde une image comme ça, je peux la décrire. Okay? Ce que je vois ici, c'est une série d'objets de blobs qui n'ont pas des formes très compliquées. Okay, ils sont à peu près circulaires, un peu elliptiques des fois. Et en fait, ce que je peux faire, c'est détecter tous les objets qu'il y a dans cette image et je peux les caractériser avec leur position, leur taille, leur orientation, leur couleur, etc. Donc j'ai juste besoin d'une petite série de quantités. Et une fois que j'ai cette description-là, qui va être en fait une liste d'objets et de paramètres, je peux recréer une nouvelle image. Et si je recrée une nouvelle image pour celle-ci, voilà ce que j'obtiens. Okay. Alors, si vous n'avez pas vu beaucoup de différence, c'est qu'en fait les deux images sont très très semblables. Je vais vous remontrer. Voici l'image originale qui est une observation astronomique. Je détecte tous les objets, j'extrais leurs propriétés. Et maintenant, je régénère une nouvelle image juste avec ces propriétés. Et comme vous voyez, la différence entre les deux est très très petite. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire la différence entre ces deux images, entre l'image originale et mon image recréée. Ce que j'obtiens dans ce cas-là s'appelle les résiduels. Et on obtient quelque chose qui est quasiment zéro. Okay, ce n'est pas parfait. Comme on voit, il reste quelques petites choses, ce qui veut dire qu'on n'a pas décrit les choses de façon exacte, mais on a fait du très bon boulot. Okay, ce qui veut dire qu'on a réussi à extraire quasiment toute l'information qu'on veut extraire d'une image comme ça. Donc en fait, on a d'une certaine façon deux régimes. Okay. Quand on regarde l'image du haut, on est dans un régime où on n'a aucun problème, on peut extraire toute l'information de tous les pixels qu'il y a dans cette image. Et maintenant, quand on regarde les images du bas, qui sont d'une certaine façon beaucoup plus jolies, beaucoup plus attractives, beaucoup plus riches, quand on analyse les données de ce genre d'image, on n'extrait qu'une toute petite fraction de l'information. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ces images ont beaucoup plus à nous dire. Okay? Maintenant, je voudrais introduire un mot-clé qui caractérise les images que vous voyez en bas, c'est le mot « texture ». Dès qu'on commence à parler de texture, les choses se compliquent très vite. Okay? Et c'est pour cela que quand on essaye d'analyser des données qui sont dans ce régime, les choses sont beaucoup plus difficiles. Alors, essayons de voir, voir un petit peu ce qui se passe, c'est comment est-ce qu'on analyse les données. Alors, je prends un exemple tout simple, j'ai une image à gauche, et je veux extraire de l'information de cette image. Pour le faire, je vais avoir besoin d'un cerveau. Okay. Maintenant, ce cerveau va être capable d'extraire de l'information suivant le type de langage auquel il a accès, okay, le type de vocabulaire, si vous voulez. Et on peut parler de différents types de langages. On peut parler, par exemple, on peut décrire les choses en français ou en anglais ou dans d'autres langues. Si vous parlez plusieurs langues, vous savez très bien qu'il y a certaines choses qui sont plus faciles à décrire dans une langue que dans une autre. Okay, donc on voit déjà qu'il y a des différences de langage. On peut utiliser un langage mathématique, statistique, on peut utiliser des notions de physique, on peut utiliser un langage informatique ou un langage visuel. Donc il y a tout un tas d'aborder le problème d'extraction de l'information. Et donc chaque langage va avoir des limites associées. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que c'est un aspect fondamental qui nous limite dans l'analyse des données en général, pas seulement en astrophysique, mais un petit peu partout. Alors pour vous montrer un exemple très flagrant de ces limites, on va faire l'expérience suivante. Voici une image. Imaginez que vous deviez décrire cette image par téléphone à un ami. Okay. Vous voyez l'image et vous devez par téléphone décrire ce que vous voyez pour qu'il puisse la comprendre, peut-être pour qu'il puisse la dessiner lui-même. Okay. Donc j'imagine que tout le monde ici peut à peu près arriver à faire ça. Maintenant, voici une deuxième image qu'il faut décrire par téléphone. Comment allez-vous décrire cette image? Okay. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Là, ce qui se passe dans le cas de droite, c'est que les mots nous manquent. On ne sait pas vraiment comment décrire toutes ces formes qu'on voit. Et ce qui est important de mentionner ici, c'est qu'en fait, ces deux images sont des images qui sont d'une certaine façon, disons, qui ne sont pas... Ce ne sont pas des grosses images, okay, il y a à peu près 200 pixels de côté. Ce sont juste des images qui sont en noir et blanc. Il n'y a pas des niveaux de gris différents, des couleurs, etc. Donc, d'une certaine façon, il y a une grande simplicité dans ces images. Et on voit qu'il ne faut pas aller chercher très loin pour trouver des exemples pour lesquels le langage, l'anglais ou les approches mathématiques ici, ne nous permettent pas vraiment de décrire les choses comme on le souhaite. Okay. Donc le message important ici, c'est qu'il y a vraiment des limitations fondamentales clés qui sont dues au langage qu'on utilise quand on veut extraire de l'information de quelque chose ou quand on veut décrire quelque chose. Donc, revenons à cette analyse de données et comment est-ce qu'on extrait de l'information. Donc on va être limité par le langage. Maintenant, si on prend le cas de l'astrophysique, on a des données qui viennent de tout un tas de télescopes qui sont fantastiques autour de la Terre. Donc j'ai montré quelques exemples ici, le télescope japonais Subaru. On a le Rubin Observatory qui va bientôt être en service. On a des télescopes dans l'espace comme le projet Euclide qui est géré par les Européens et son cousin américain qui partira un petit peu plus tard dans l'espace. Ces projets sont massifs. Les projets au sol coûtent des centaines de millions d'euros. Les projets spatiaux, généralement, sont de l'ordre d'un milliard d'euros. On passe une dizaine d'années à les construire. Et ensuite, on passe 5 à 10 ans à observer le ciel, à accumuler des données pour ensuite les analyser. Okay? Donc, ce qui se passe avec tous ces projets, c'est le cas en astronomie, c'est le cas dans plein d'autres disciplines scientifiques. La quantité de données est absolument énorme. Elle est astronomique dans ce cas-là. Et donc, pour les analyser, ce n'est pas un cerveau humain qui va s'en charger. Il va falloir utiliser un cerveau artificiel. Okay? Aujourd'hui, on atteint le niveau où on a observé à peu près 1 milliard de galaxies dans le ciel. Et vous comprenez bien qu'une personne seulement ne peut pas à l'œil nu regarder 1 milliard d'images de galaxies. La vie humaine est trop courte pour ça. Et donc toutes les analyses scientifiques, ou la plupart des analyses scientifiques, transitent par des ordinateurs. Okay? Et ce qui est important de voir ici, c'est que ces ordinateurs, il va falloir leur enseigner un langage pour qu'ils puissent extraire les données. Et quand on a un système comme celui-ci, où on a des photons qui vont traverser l'univers pendant des milliards d'années, qui vont être détectés par ces télescopes qui sont à la pointe de la technologie, où on va avoir des miroirs qui vont être polis au nanomètre près, les photons vont passer par des lentilles qui vont être d'une qualité extrême, on va utiliser des détecteurs qui sont certains des détecteurs les plus puissants du monde, les plus sensibles au monde. On va donc détecter ces photons, ils vont être transformés en électrons, ça va créer un signal qui va être sauvé sur un disque dur, donc ça va nous donner les données à analyser. Si, au final, on a un système avec un ordinateur qui n'est pas capable d'extraire toute l'information, donc dans ce cas-là, à quoi bon avoir des instruments aussi sophistiqués, des projets à aussi grande échelle, si au final, on a une efficacité qui est seulement de 10%, et si 90% de l'information n'est pas extraite des données. Ce serait bien dommage. Okay? Donc, on peut essayer de regarder un petit peu plus près comment les choses sont faites en astrophysique. Et pour cela, on peut utiliser une quote de Richard Feynman, qui est un grand physicien du XXe siècle, qui nous dit « What I cannot create, I do not understand. » Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Et donc un très bon exercice pour savoir si on comprend bien les choses, c'est d'essayer de recréer ce qu'on voit à partir de notre description, de notre représentation. Okay? Donc ce que je peux faire ici, c'est utiliser un certain langage mathématique informatique qui sera donc dans l'ordinateur, extraire de l'information de ces données, et à partir de cette information, je vais recréer une nouvelle image pour voir si ça ressemble ou non à l'image de début. Okay? Et si j'ai cette capacité, je vais pouvoir recréer autant d'images que je veux qui vont ressembler à l'image du début, qui vont être du même type d'image. Donc on peut essayer de voir ce qui se passe. Et c'est là où les choses sont assez surprenantes. Si je considère les techniques qui sont utilisées aujourd'hui en astrophysique et dans plein d'autres domaines scientifiques, voilà à quoi ça ressemble. Je prends l'information qui a été extraite par l'ordinateur et je recrée des images du même type avec cette information. Dans ce cas-là, il s'agit du spectre de puissance, pour ceux qui savent de quoi il s'agit. Voilà à quoi ça ressemble. Comme on peut le voir, les images qu'on recrée ici sont très, très différentes des images qui sont en entrée. Ce qui veut dire qu'une grande partie de l'information n'a pas été conservée quand on fait cette extraction. Okay? Ce qu'on fait ici, c'est qu'on utilise des outils statistiques qui ont été inventés dans les années 60. Okay. Et en fait, il y a un certain contraste entre le type d'outil statistique qui maintenant donc date d'il y a des années et ces instruments qui sont la pointe de la technologie aujourd'hui. Donc il y a vraiment un déséquilibre un petit peu entre les deux. Mais ce qui se passe, c'est pas qu'on n'utilise pas des outils plus récents. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en statistique, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans ce genre de domaine entre les années 60 jusqu'aux années 2000. Il y a eu certaines améliorations, et là je vais vous en montrer une. Ici, c'est une situation dans laquelle on extrait le spectre de puissance et des statistiques d'ordre supérieur. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Mais ça, c'est en gros la pointe de la technologie de l'analyse de données en astrophysique quand on est au début des années 2000. Okay, 2000, même jusqu'à 2010. Okay. Et comme on peut le voir, donc là, c'est un petit peu mieux. On voit que les concentrations jaunes qu'il y avait au début dans l'image de départ, d'une certaine façon, on en retrouve certaines dans les images d'arrivée ici. Mais, de même, énormément, toute une fraction de l'information n'a pas été extraite des données. Okay? Donc, il y a vraiment, c'est vraiment dommage, c'est que quand on en est à ce stade-là, il y a énormément d'attention qui est portée le long au cours de ces projets, à essayer de conserver tous les photons, conserver l'information et les propriétés des photons. Mais une fois qu'on a les données, malheureusement, on est capable d'extraire seulement une fraction de l'information. Ce que je vous montre ici, ça correspond aux résultats de cosmologie, par exemple, qui datent juste d'il y a quelques années. Okay, ce sont les techniques qui ont été utilisées jusqu'à très récemment en astrophysique et en cosmologie. Et ce genre d'outils statistiques sont les outils classiques qui sont utilisés dans la majorité des domaines scientifiques. Okay, donc, comme vous le voyez, okay, la limite ici, ce n'est pas la taille du télescope, ce n'est pas la puissance de calcul. La limite, c'est vraiment le langage qu'on donne à l'ordinateur pour pouvoir extraire l'information des données. Okay. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ce qui a changé récemment, c'est l'arrivée de cette fameuse intelligence artificielle. Okay. Alors, juste un petit mot, la majorité des gens qui travaillent dans le domaine ne parlent jamais d'intelligence artificielle, parce que c'est quelque chose qui a évolué au cours du temps, la définition n'arrête pas de changer, elle n'est pas la même pour l'un et pour l'autre. Très souvent, on parle de machine learning, donc la machine qui apprend. Okay. L'intelligence artificielle ou le machine learning, comme vous le savez, c'est tout autour de nous. On a ça maintenant dans les smartphones. C'est intégré dans les appareils photo pour détecter les visages, dans les images. Ça fait partie des technologies qui sont utilisées pour reconnaître de la voix, si vous parlez à Siri ou si vous parlez à Alexa, par exemple. Ce sont des techniques de machine learning. C'est utilisé pour traduire des langues, du français vers l'anglais, vers le chinois. C'est utilisé pour les voitures qui maintenant sont autonomes et peuvent conduire toutes seules. C'est utilisé dans tout un tas de décisions médicales. Donc c'est tout autour de nous. Et essayons de voir un petit peu de plus près ce qui s'est passé sur les 20 dernières années ou plus. Si on regarde l'histoire de ce domaine, en fait, il y a certains moments clés où la machine est arrivée à avoir une performance meilleure que celle des humains. Okay? Donc cette histoire, elle a commencé à peu près dans la fin des années 90, où en 97, Kasparov, le champion mondial d'échecs, se fait battre par la machine pour la première fois. Okay? Ça a été un moment très important où la machine surpasse l'humain. Si on continue dans l'histoire, on arrive en 2011, avec le jeu de Jeopardy aux États-Unis, c'est l'équivalent de Question pour un champion, je crois, en France, où là, la machine qui s'appelle Watson a gagné toute la compétition. Si on continue dans le temps, on voit qu'il y a toute une explosion de situations pour lesquelles la machine devance l'homme. Okay, ça commence avec les jeux de vidéo Atari, où la machine bat tous les humains. Ensuite, on passe aux jeux de Go. Et ensuite, il y a tout un tas de choses. J'ai pris quelques exemples ici. Le diagnostic légal, diagnostic médical. Et l'année dernière, en 2021, on a eu un résultat la communauté a eu un résultat qui est assez remarquable, où là, il ne s'agit pas de battre un humain, mais la machine a battu toute la communauté scientifique qui s'attaquait au problème de protein folding, donc de pliage des protéines, qui est quelque chose d'important dans la compréhension du monde vivant. Okay. Il y a quelque chose d'assez important ici, c'est qu'il y a une différence entre ce qui s'est passé avant 2012, c'est pour ça que j'ai utilisé la couleur bleue, et ce qui s'est passé après 2012. Les techniques qui ont été utilisées avant 2012 sont des techniques qui sont basées sur des mémorisations massives. Et en fait, aujourd'hui, on n'appelle pas ça de l'intelligence artificielle. Okay, ce qui a été fait, c'est juste de mémoriser toutes les configurations possibles, tout un tas de configurations dans un jeu d'échecs, ou tout un tas de savoirs pour le jeu de Jeopardy. Et quand une question est posée, on va essayer de trouver la réponse parmi les données qu'on a. Par contre, quand on est après 2012, c'est très différent. Là, il s'agit d'apprentissage. Si je prends l'exemple du jeu de Go, par exemple, il y a tellement de configurations possibles au jeu de Go que ça ne tient pas dans la mémoire de n'importe quel ordinateur sur Terre aujourd'hui. Okay, c'est un nombre astronomique. Et donc, on ne peut pas juste mémoriser les configurations. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre, développer des stratégies. Okay, et donc, il y a vraiment quelque chose qui est très différent si on regarde les choses après 2012. Je vais également citer un autre exemple qui date de 2017, une chercheuse japonaise qui a développé un système qui permettait de passer tous les tests d'entrée à l'université au Japon. Dans 60% des universités au Japon, l'algorithme était capable de passer le test, de répondre à toutes les questions. Il y avait des questions de maths, mais il y avait aussi des questions pour lesquelles il fallait écrire un essai sur un sujet donné. L'algorithme arrivait à être admis à l'université. Si on regarde ce qui s'est passé dans la littérature, si on prend tous les livres en français, on regarde le mot « intelligence artificielle », on voit, donc ça vient de Google, qu'il y a vraiment un changement en 2012. On a parlé d'intelligence artificielle depuis très longtemps, mais on voit qu'en 2012, la tendance se met à monter très vite. Okay, c'est vraiment passé quelque chose. Si on regarde dans la littérature scientifique, c'est pareil. Donc, si on prend tous les papiers qui ont été publiés en astrophysique entre 2000 et 2020, on peut regarder tout un tas de mots-clés. Okay, si on regarde la recherche sur les étoiles et les galaxies, on voit que la fréquence de ces mots-clés n'a pas trop changé sur 20 ans. On regarde un autre mot comme les planètes, ce qui est, comme vous le savez peut-être si vous, si vous suivez l'actualité astrophysique, la découverte des exoplanètes a vraiment créé toute une nouvelle discipline ici qui s'est mise à croître au cours des 20 dernières années. Et maintenant, si on se pose la question de qu'est-ce qui se passe avec le machine learning et en particulier ces fameux réseaux de neurones dont je vais vous parler bientôt, voilà ce qu'on voit dans la littérature, c'est une explosion littérale sur les quelques dernières années. Et comme vous voyez à nouveau, il se passe quelque chose aux alentours de 2012. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant peut-être de vous dire ce qui s'est passé, essayons de comprendre les choses. Quel est le challenge et quelle est la réponse apportée par le machine learning? Si je veux dire à un ordinateur de détecter un cercle, okay, j'ai besoin de lui donner la position du centre du cercle, x et y, et le rayon du cercle. Okay, et en gros, ça suffit pour détecter un cercle dans une image. Maintenant, si moi, je dessine à la main des cercles, et je voudrais dire à un ordinateur, je voudrais lui expliquer comment détecter ces cercles, la situation est beaucoup plus compliquée. Parce que là, je n'ai pas besoin juste de lui donner le centre et le rayon, il va falloir que je lui explique aussi toutes les déformations possibles des cercles. Okay, je peux avoir un cercle qui peut être un peu plus aplati dans cette direction ou dans cette direction. Je peux avoir un cercle où il y a un trait qui dépasse un petit peu, un autre cercle où il manque un petit bout du cercle. Et comme vous pouvez le voir et le comprendre maintenant, pour décrire toutes les possibilités de cercles qu'on pourrait trouver si quelqu'un dessine des cercles, il va falloir expliquer à un ordinateur toutes les déformations possibles de ces cercles imparfaits. Et cette liste est énorme. Okay, cette liste, en gros, ne s'arrête jamais. Okay, donc, ce n'est pas vraiment la bonne approche si je veux expliquer à un ordinateur, si je veux lui enseigner un langage pour détecter des cercles. La même chose s'il s'agit de détecter de la voix. Okay, si je dis le mot « bonjour » deux fois, « bonjour, bonjour », la deuxième fois ne va pas être exactement la même que la première. Maintenant, si vous dites le mot « bonjour », pareil, il va être un petit peu déformé par rapport à la façon dont moi je l'ai dit. Et donc, pour expliquer à un ordinateur comment reconnaître ce mot, il va aussi falloir lui expliquer toutes les déformations possibles du mot « bonjour ». Et le problème, c'est que c'est un espace qui est vraiment énorme et beaucoup trop grand. Même chose avec la détection d'un chat dans une image, qui est en fait l'exercice typique du machine learning et des réseaux neurones aujourd'hui. Comment faire pour détecter un chat dans une image? C'est quelque chose qu'on ne savait pas bien faire si on est, par exemple, aux alentours des années 2000. Pourquoi est-ce le cas? Un chat, c'est quelque chose qui semble relativement simple. Un chat adulte a à peu près cette taille, une tête, quatre pattes, une queue. Et très souvent, on voit les chats dans ce genre de configuration. Donc, on pourrait essayer d'expliquer à un ordinateur à quoi ressemble un chat. Le problème, c'est que si j'utilise juste ce genre de position, ça ne va pas être suffisant pour être capable de détecter les chats dans la majorité du temps. Parce qu'en même temps que ça, il y a tout un tas de configurations possibles qui sont peut-être rares, mais qui existent et qu'on trouve régulièrement, des configurations, des positions dans lesquelles les chats peuvent être. Mais ce nombre de positions qui sont un peu spéciales est vraiment énorme. Et donc, enseigner à un ordinateur toutes ces positions, ce serait prohibitif, et donc ce n'est pas du tout la bonne approche. Okay. C'est là qu'arrivent ces fameux réseaux de neurones. Alors, comment fonctionne-t-il? D'abord, un réseau de neurones, qu'est-ce que c'est? Un réseau artificiel. Donc, c'est quelque chose qui va exister dans la mémoire d'un ordinateur, qui a beaucoup de ressemblances avec la façon dont fonctionne un cerveau humain. On a des neurones qui sont connectés les uns les autres. On a une couche d'entrée qui va donc prendre la valeur des pixels d'une image, par exemple. On a une couche de sortie qui va nous dire si c'est un cercle ou si ce n'est pas un cercle, dans ce cas-là. Et au milieu, on va avoir ce qui s'appelle une couche cachée, une couche pour laquelle les neurones vont être connectés de tout un tas de façons possibles, et on va laisser à la machine elle-même le choix de faire ces connexions. Okay, donc ces connexions, elles sont faites en faisant des pondérations internes, donc la machine va essayer de trouver des nombres qui vont donc pondérer ces connexions, qui vont faire que certaines connexions vont être plus fortes que d'autres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer à la machine un cercle, on va commencer avec des pondérations aléatoires, et on va lui dire, voilà un cercle. Et donc, on va dire à la machine, trouve-moi les pondérations qui font que, entre l'entrée et la sortie, je vais pouvoir dire qu'il y a un cercle pour les pixels donnés. On va faire ça pour un premier cercle. On fait ça pour un deuxième cercle, qui va être légèrement différent. On va dire à la machine, adapte tes pondérations pour que, pour les deux images précédentes, à chaque fois, on dise, oui, il y a un cercle, oui, il y a un cercle. Et on va faire ça pour tout un tas d'images, avec des déformations différentes. Et à chaque fois, donc, on va dire à la machine, on va lui demander d'ajuster ses pondérations, donc ses configurations internes de ces neurones artificiels, pour pouvoir, en général, être capable d'avoir la bonne réponse. Donc, d'une certaine façon, en fait, on écrit un programme informatique qui permet à la machine elle-même d'écrire son propre programme de façon interne. Okay. Et donc, la façon dont elle va écrire ce programme, ça va être de trouver toutes ces pondérations des réseaux, des neurones internes. Et en faisant ça, en fait, la machine toute seule va faire beaucoup mieux que nous. Okay. Elle va être capable de comprendre comment conserver les variations qui sont informatives dans toutes ces données d'entrée et comment ignorer les variations qui ne sont pas informatives pour savoir si oui ou non c'est un cercle en sortie. Et en fait, la machine va faire ça beaucoup mieux que nous. Elle va créer son propre langage interne qui va lui permettre de faire ça et d'avoir la bonne réponse. Et pour faire ça, il faut l'entraîner sur tout un tas de données. Et pendant cet entraînement, elle va se reconfigurer en interne pour créer ce langage qui va lui permettre de résoudre la tâche donnée. Dans les années 90, début des années 90, cette technologie a été développée. Il y a d'ailleurs un Français, Yann Lequin, qui est derrière ça, qui a été un des auteurs clés de cette technologie, qui a permis de reconnaître donc, les chiffres écrits à la main. Et vous vous souvenez peut-être, dans les années 90, sont apparues les petites cases sur les enveloppes de la poste pour écrire les codes postaux. Et en fait, donc, les chiffres écrits étaient lus ensuite par un réseau de neurones de ce type-là. Et le réseau était capable de savoir quel chiffre était écrit et donc de retrouver le code postal. Même chose pour les chèques, la valeur numérique des chèques était lue par des réseaux de neurones dans les années 90. Donc ça, c'était très bien. Mais le problème, c'est que ça ne marchait qu'avec des choses relativement simples. Okay, les gens n'étaient capables de créer que des réseaux relativement petits. Si maintenant on passe à des images qui sont de ce type, qui sont plus complexes, ces petits réseaux ne fonctionnaient pas du tout et on était incapable de faire des réseaux plus gros. On pouvait créer un réseau plus gros dans un ordinateur, mais on ne savait pas comment faire. L'apprentissage de l'ordinateur en regardant plusieurs images ne fonctionnait pas. Le problème à résoudre était d'une certaine façon trop important et on n'avait pas du tout la bonne approche. Okay. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des années 90, après cet enthousiasme pour les chiffres, étant donné que les réseaux de neurones ne fonctionnaient pas pour des images comme ça, qui sont des images qui restent assez petites, la communauté a abandonné les réseaux de neurones. La majorité des scientifiques se sont arrêtés de travailler sur ce sujet et tout le monde pensait que les réseaux de neurones étaient seulement capables de créer, d'analyser des choses aussi simples que les chiffres, mais que ces réseaux seraient incapables d'analyser des images comme celle-ci. Une des raisons pour lesquelles c'était le cas, c'est que si on essaye d'avoir une inspiration mathématique sur la façon dont les réseaux fonctionnent, en fait, les idées qu'il y avait à l'époque allaient dans le sens contraire et disaient qu'en fait, il y avait tout un tas d'arguments mathématiques qui disaient que ce serait peine perdue d'essayer d'utiliser des réseaux de neurones pour attaquer ce genre d'image. Okay, on ne pensait pas les choses comme il fallait à ce moment-là. Donc les réseaux ont été abandonnés par la communauté et ça a duré des années. Okay, de 1990 jusqu'à 2010, donc à fin des années 90, les réseaux sont abandonnés. Et ensuite, on a des années pendant lesquelles la communauté scientifique, mathématique, informatique, etc., utilise d'autres techniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, tout le monde veut reconnaître les objets dans les images. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Nous, on fait ça sans y penser. Et ce serait fantastique d'avoir des algorithmes qui permettent de le faire. Donc, il y a eu tout un tas de challenges qui ont motivé les scientifiques à entrer en compétition les uns contre les autres, à développer les techniques les plus puissantes pour arriver à reconnaître des objets dans les images. Un challenge qui est maintenant entré dans l'histoire, c'est celui qui correspond au dataset qui s'appelle ImageNet. Il s'agit d'un million d'images et de 1000 catégories différentes. Et donc, le jeu... Pour chaque image, c'est une petite image qui fait juste 200 pixels de côté, en gros. La question, c'est à quelle catégorie elle appartient. Okay. Ça n'est pas aussi facile que ça semble l'être, parce que, par exemple, quand on voit une image de chien, il ne faut pas seulement dire que c'est un chien, mais il faut aussi donner la race du chien. Okay. Donc, il y a quand même une certaine précision. Quand on voit une plante, il faut dire quel type de plante il s'agit. Okay. C'est pour ça qu'il y a 1000 catégories. Donc, si on regarde ce qui se passe, on est dans les années 2010-2011, toute la communauté s'attaque à ce challenge et au cours des années, donc les gens développent des techniques différentes et d'année en année, ils gagnent quelques pourcents, ils s'améliorent en termes de performance. Et ce qu'on voit, c'est que quand on est dans les années 2010, l'erreur est de 25% en gros, ce qui veut dire qu'une fois sur quatre, l'algorithme se plante complètement. Le reste du temps, il arrive à reconnaître ce qu'il y a sur l'image. Okay, donc c'est quand même déjà pas mal et ça vient après des années de recherche. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit groupe de chercheurs, dont fait toujours partie Yann Lequin, qui n'a pas abandonné les idées des réseaux de neurones, qui a continué à travailler pendant toutes ces années. Donc là, on est quasiment 20 ans plus tard. Ils ont une période difficile, une période pendant laquelle ils essayaient de publier les papiers, leurs papiers étaient rejetés parce que les gens pensaient que ça ne marchera jamais. Mais ils ont persisté. Et ce qui se passe quand on arrive en 2012, c'est qu'ils ont enfin compris comment faire pour construire des réseaux plus gros et comment les entraîner. Et là, il y a quelques idées clés qui sont apparues. Il s'agit d'introduire la convolution, une opération mathématique, de l'introduire directement dans le réseau. Une autre idée, c'est ce qui s'appelle la backpropagation, c'est-à-dire qu'on va utiliser le réseau pas seulement dans un sens, des inputs de l'entrée vers la sortie, mais on peut aussi l'utiliser dans l'autre sens, de la sortie vers l'entrée. Okay, ça a été une idée clé qui a changé les choses. Et il y a aussi l'apparition des cartes graphiques, des GPU, qui à la base ont été créées pour les jeux vidéo. Et il s'avère que le type de calcul pour lesquels ces cartes graphiques sont très performantes est en gros très semblable au type de calcul dont on a besoin pour entraîner les réseaux de neurones. Donc la combinaison de toutes ces éléments, ces nouvelles idées, plus ces cartes graphiques qui ont permis d'accélérer les choses, ont fait qu'en 2012, ce groupe a réussi à utiliser un réseau de neurones, à participer à la compétition, et boum, ils ont eu un résultat qui est nettement meilleur que tout ce qui avait été fait les années auparavant. Et là, il faut bien garder en tête que d'année en année, le progrès n'était que de 1 ou 2% à chaque fois. Et tout d'un coup, entre 2011 et 2012, on a 10% d'amélioration. Ça correspondrait à des années de recherche de toute la communauté scientifique. Et là, cette amélioration, elle vient juste d'un seul groupe, qui a utilisé les réseaux de neurones, alors que tout le monde les avait délaissés depuis des années. Donc du coup, tout le monde ouvre les yeux sur les réseaux de neurones. Tout le monde commence à comprendre comment ils fonctionnent et réalise qu'en fait, on peut créer, maintenant on a les moyens, on a la compréhension qu'il faut pour créer des réseaux de plus en plus gros et donc de plus en plus performants. Et ce qui va se passer les années d'après, c'est que tout le monde abandonne toutes les autres techniques, toute la communauté mondiale n'utilise que des réseaux de neurones à partir de 2012, et comme vous pouvez le voir au cours des années, les réseaux deviennent de plus en plus gros, la performance devient meilleure et meilleure. Et au final, on arrive à une erreur qui est de l'ordre juste de quelques pourcents. Okay. Ce qu'on voit sur ce graphique ici aussi, c'est l'erreur humaine, qui est à peu près de 5%. Alors vous pouvez me dire comment ça se fait que l'erreur humaine soit de 5% et pas de 0. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il ne s'agit pas juste de dire qu'il y a un chien sur une image, mais il faut aussi décrire la race du chien. Okay. Donc ce n'est pas toujours évident ce genre de questions. Pareil pour les plantes, les fleurs, etc. Et donc c'est pour ça qu'en moyenne, sur ce type de questions, les humains ont un taux d'erreur de 5%. Très bien. Donc, ce qu'on a vu, c'est que ces réseaux de neurones sont capables de faire des choses assez incroyables. Et maintenant, on sait comment construire des réseaux de plus en plus gros. Okay. Et donc, on va être capable de créer des réseaux qui vont avoir des millions de neurones, okay, voire plus. Pour vous mettre ça un petit peu en perspective, on peut comparer, ça au nombre de neurones qu'on trouve dans les cerveaux biologiques. Okay. On peut commencer avec les humains. Okay. Les humains ont à peu près 100 milliards de neurones dans le cerveau. Vous avez 100 milliards de neurones dans le cerveau, en tout cas j'espère. 100 milliards, c'est à peu près le nombre d'étoiles qu'il y a dans la galaxie. Okay, il y a une analogie assez jolie ici. Et comme vous pouvez le voir, donc, suivant l'espèce qu'on considère, donc, on a toute une gamme possible de nombre de neurones dans les cerveaux. Donc là, je voudrais quand même dire que la comparaison du nombre de neurones dans les réseaux artificiels et du nombre de neurones dans les réseaux biologiques, elle n'est pas directe, c'est juste pour vous montrer qu'on est capable aujourd'hui de construire des réseaux qui commencent à atteindre les niveaux qu'on trouve dans le monde biologique. Okay? Mais ensuite, ce que va être capable de faire un réseau va dépendre du type d'architecture, donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on a exactement le même nombre de neurones qu'on va être capable de faire les mêmes choses. Mais on commence à entrer dans un régime vraiment intéressant, où pour les réseaux artificiels, on a des millions, voire maintenant même des milliards de neurones. Okay. Donc on va pouvoir faire des choses fantastiques avec. Voici un exemple, on prend un de ces gros réseaux de neurones, on va lui montrer tout un tas d'images, de visages, de personnes. Le réseau neurone va former sa représentation interne en changeant toutes ses configurations de poids, et il va avoir sa façon de reconnaître les visages, qui va être assez mystérieuse, on ne la comprend pas très bien, mais on sait qu'il y arrive, qu'à l'intérieur, il a cette compréhension de la zone possible qui correspond au visage humain. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut se déplacer, on peut se balader dans cette zone de représentation. Et on peut aller chercher des points aléatoires, par exemple, on peut se placer sur un point aléatoire, et on peut dire au réseau, OK, pour cette représentation, qui ne correspond à aucun humain, aucune photo réelle, maintenant, génère-moi, crée une photo qui correspond à cette représentation. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser le réseau dans l'autre sens. On va partir de cette représentation et on va pouvoir générer une image. Et voici une image qui a été générée par un réseau de neurones d'une personne qui n'existe pas. Et c'est vraiment très réaliste. Aujourd'hui, on a atteint un niveau qui est assez remarquable. Si vous voulez vous amuser avec ça, il y a un site web qui est assez amusant, qui s'appelle thispersondoesnotexist.com. Okay, cette personne n'existe pas. Vous pouvez y aller. Et à chaque fois que vous arrivez sur cette page, vous verrez la photo de quelqu'un qui n'existe pas. C'est assez bluffant. Et si vous appuyez sur Reload, recharger la page, à chaque fois, vous verrez un nouvel individu et cette personne n'existe pas. Et à chaque fois que vous voyez une nouvelle photo, la photo précédente de la personne précédente a disparu à tout jamais. Okay. Donc on est arrivé à un niveau d'expressivité, de fidélité qui est assez remarquable. On peut maintenant retourner en science et se demander ce qu'on peut faire avec. Donc si vous vous souvenez, les techniques d'analyse en astrophysique et dans d'autres domaines scientifiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, utilisent des méthodes statistiques qui datent d'un certain nombre d'années, qui n'ont pas beaucoup évolué avec le temps. Maintenant qu'on a ces nouveaux outils dans les mains, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Dans un cas comme ça, ce qu'on peut faire maintenant, c'est au lieu d'utiliser ces fameux langages classiques de maths et de statistiques, on va utiliser un réseau de neurones pour essayer de représenter cette image de façon interne et de créer de nouvelles images. Et comme vous pouvez le voir sur cet exemple, on est arrivé à un niveau de fidélité maintenant qui est absolument fantastique. Et donc on sait que quand on utilise un réseau comme ça, dans le réseau, on a réussi à extraire toute l'information qui nous intéresse pour cette image. Okay, donc c'est une très bonne nouvelle, ça va nous permettre de faire tout un tas de choses en science et ailleurs. Alors, avant de vous parler de plus d'astrophysique, cette nouvelle, elle est très bonne. Okay, maintenant, on a des outils qui sont super puissants, mais il faut quand même faire attention. Okay, parce que quand le réseau arrive à créer sa représentation interne, par exemple ici, le problème, c'est qu'on a du mal à savoir comment il a appris et qu'est-ce qu'il a appris vraiment. Okay, on essaye d'ouvrir la boîte et de voir à l'intérieur toutes ces configurations de neurones, mais d'une certaine façon, le réseau de neurones a développé un langage qui nous reste assez mystérieux. On n'arrive pas à parler ce langage. Donc on a du mal à savoir vraiment ce que le réseau a appris, comment il a appris, etc. Okay? Donc il faut faire un petit peu attention et on peut se poser la question de savoir comment est-ce que le réseau voit le monde. Okay? Donc je vais démarrer avec un exemple très simple. Voici l'image d'un ours. Un réseau a été entraîné à reconnaître des images d'animaux, il nous dit tout de suite, c'est l'image d'un ours. Maintenant, si je prends une autre image, où je vais prendre différentes parties de l'image et je vais les déplacer pour avoir une image comme celle-ci. Si je montre cette image au réseau, sans hésiter, il me dit, c'est l'image d'un ours. Il n'a aucun problème pour reconnaître qu'à la base, il y avait en effet un ours sur cette image, mais que tout un tas de parties différentes de cette image ont été déplacées de façon aléatoire. Pour un humain, ce genre de tâche est beaucoup plus difficile. Okay, il y a tout un tas d'images pour lesquelles, si on fait ce réajustement des parties de l'image, on n'est plus capable de reconnaître ce qu'il y a sur l'image, alors que le réseau de neurones n'a aucun problème. Okay, ça nous dit qu'en fait, il voit les choses de façon un peu différente. Il y a un autre exemple qui est l'opposé, c'est celui-ci. Si on dessine juste la forme d'un ours, pour un humain, il n'y a aucun problème pour savoir que c'est un ours, mais le réseau de neurones est complètement perdu, il est incapable de savoir qu'il s'agit d'un ours. Okay, donc ces exemples sont là pour nous montrer qu'il faut faire attention, le réseau a réussi à apprendre à faire tout un tas de choses, mais il voit le monde d'une façon qui n'est pas la même que la nôtre. Et comme c'est indiqué sur ce slide, en fait, la balance entre l'attention qui est mise sur la forme ou sur la texture et les détails n'est pas forcément la même que la nôtre. Okay, en tant qu'humain, si on voit une forme générale sans avoir les détails, on est capable de reconnaître de quoi il s'agit, mais le réseau est perdu. Et dans le cas contraire, si on voit que des détails et on a détruit la forme générale en faisant ce déplacement de toutes les parties de l'image, le réseau n'a aucun problème, mais pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Donc on voit que le réseau a réussi à créer son langage interne, propre à lui-même, mais ce langage, ce n'est pas forcément le même que le nôtre. C'est pas la même, il ne voit pas le monde de la même façon que nous. Et donc il va y avoir tout un tas de problèmes possibles. Il va falloir faire très attention quand on utilise ces réseaux dans des applications scientifiques ou autres, car ils ne vont pas tout le temps se comporter de la même façon que nous. Voici un autre exemple où on utilise un réseau qui détecte des personnes sur des images, donc là, il voit bien qu'il y a des individus sur l'image, mais voici un t-shirt qui permet de devenir invisible au réseau de neurones. Okay, il suffit de porter ce t-shirt que vous pouvez acheter en ligne sur Internet si vous voulez, et dès qu'on porte ce t-shirt sur soi, on devient invisible au réseau de neurones. Okay, donc, c'est-à-dire que la façon dont le réseau de neurones comprend cette image est très différente de la nôtre. Pour résumer tout ça, voici une photo qui montre bien les choses. Okay, on a un individu qui est en premier plan, qui n'échappe à aucun d'entre nous, Mais pour le réseau de neurones, cette personne est complètement invisible. Okay, donc, une fois de plus, il faut faire attention, il voit les choses de façon différente. Ok. Petit résumé de là où on en est aujourd'hui avec ces réseaux. Il y a eu beaucoup d'avancées. Je voudrais juste rappeler donc certains points clés. Donc, cette architecture en réseau, en couche, elle permet au réseau d'avoir des représentations stables du monde. Par stable ici, je veux dire que si on perturbe les choses un petit peu, si on a toutes ces déformations possibles, ça ne va pas changer la réponse du réseau. Okay, et c'est vraiment une propriété qui est essentielle si on veut s'attaquer à des données complexes, à des objets du monde réel. Et en fait, cette capacité cette stabilité, en fait, c'est vraiment ça qui va nous permettre d'ouvrir la porte à un monde beaucoup plus complexe quand il s'agit d'analyse de données. Je vais montrer juste quelques aspects un peu plus techniques, juste pour un slide ici. Mathématiquement, on a commencé à comprendre comment fonctionnent les choses maintenant. Des données peuvent être sur différents domaines. On peut avoir des données sur une grille, c'est le cas d'une image. Quand on a une image pixelisée, donc les valeurs sont sur une grille. Si j'enregistre du son, pareil, le son va être enregistré, il va être échantillonné toutes les 40 millisecondes en gros. Ça va aussi être sur une grille qui va être en une dimension. On peut avoir des données sur la sphère, on peut avoir des données de type réseau, un réseau social par exemple, c'est un type de données différent. On peut avoir des données qui sont sur des variétés, ou manifold en anglais, qui vont être distribuées sur des surfaces avec des géométries diverses. Pour différents types de domaines, on peut avoir des symétries associées, symétries de translation, de rotation, de permutation, etc. Et donc toute cette compréhension mathématique et théorique est en train d'émerger. Et donc, suivant le type de données, suivant le type de domaine sur lequel les données sont distribuées, maintenant, on a tout un tas d'architectures différentes. Il y a un zoo d'architectures qui existe dans la littérature. Donc, ce sont des technologies qui sont basées sur les mêmes principes, mais qui donnent lieu à des architectures différentes qui dépendent de la nature des données. Okay, donc tout ça, maintenant, on commence à beaucoup mieux le comprendre. Et donc ça, il s'agit de recherches très récentes. Donc très bien, bonne nouvelle, on a cette nouvelle technologie. Voyons voir ce qu'on peut faire avec en astrophysique. Comme je vous l'ai dit, ces réseaux de neurones nous permettent d'aller étudier des choses qui sont plus complexes. Donc on va pouvoir se déplacer le long de cet axe de complexité et on va pouvoir extraire de plus en plus d'informations. On ne va plus être limité aux objets qui sont relativement simples, qui sont à gauche de ce diagramme. Un exemple très important en astrophysique, c'est la classification des galaxies. Si on veut étudier les galaxies, on ne peut pas toutes les mettre dans le même sac. Il y a des galaxies spirales, des galaxies elliptiques, des galaxies spirales barrées, des galaxies qui ont des noyaux, d'autres qui n'en ont pas. Si on veut comprendre la formation et l'évolution des galaxies, il va falloir séparer les différents types de galaxies pour faire ça comme il faut. Et comme maintenant vous pouvez le comprendre, quand on a des images de galaxies comme ça, être capable de séparer les spirales, les elliptiques, les spirales barrées, etc., en fait, est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Dans les années 2000 jusqu'à 2010, on n'avait pas d'outils statistiques, informatiques, on n'avait pas le langage qu'il fallait pour pouvoir résoudre ce problème. Okay, simplement de classer, de séparer les différents types de galaxies. On a l'impression qu'on peut le faire à l'œil, comme ça, mais comme je vous l'ai dit, on a des millions de galaxies, donc il faut faire ça de façon automatique sur l'ordinateur, et on ne savait pas le faire. Donc la réponse à la façon dont c'était fait à ce moment-là, si on retourne vers les années 2010, on a fait appel aux citizen scientists, donc des scientifiques citoyens, et donc l'idée c'était de collaborer avec le public, le grand public, et de demander à des milliers de personnes de classer des galaxies à l'œil sur leur ordinateur chez elles. Et en fait, en rassemblant je ne sais pas combien de milliers ou de dizaines ou de centaines de milliers de personnes tout autour du monde, les astrophysiciens ont réussi à pouvoir classifier quelque chose qui est de l'ordre du million de galaxies aujourd'hui. Et donc ça a permis ensuite de faire tout un tas d'analyses astrophysiques. Les choses ont changé. On est capable de reconnaître maintenant des chiens et des chats sur des images. On est capable de reconnaître les galaxies spirales, des galaxies elliptiques, des autres types. Maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton. On peut ordonner toutes ces galaxies directement en utilisant des réseaux de neurones. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut maintenant agencer ces galaxies de façon continue. Et on peut séparer donc différents types, différentes classes, qui vont ensuite servir de point de départ à tout un tas d'analyses astrophysiques. Okay, donc là, ce que je vous montre, c'est une partie minuscule des données. Okay, vous pourriez dire, ok, je pourrais le faire à l'œil nu. Voici une partie maintenant qui est très petite de toutes les données. Toutes les données qu'on a en astronomie seraient beaucoup plus grandes que l'écran que j'ai ici. Et donc maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a cette façon automatique de trier les images. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'étant donné qu'on a une quantité énorme de données, ça nous permet maintenant d'aller chercher des objets particuliers. Okay, d'une certaine façon, on peut trouver une aiguille ou les aiguilles dans la botte de foin. Si on regarde le pourtour de cette distribution, okay, on a des galaxies qui sont moins similaires que les autres. Okay, c'est comme ça que c'est agencé. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les regarder une par une et on voit tout un tas d'objets très intéressants, okay, des objets inhabituels. Alors, on va trouver de tout. On va trouver des images pour lesquelles, si vous voyez les segments verts ou rouges qui traversent l'image, ça, il s'agit de satellites qui sont passés devant la galaxie juste au moment où la photo a été prise. On va trouver tout un tas de choses intéressantes, des compagnons intéressants, des morphologies intéressantes. Et en fait, regarder ces objets particuliers qu'on peut maintenant détecter de façon automatique va être un point de départ fantastique à tout un tas d'études astrophysiques, parce que beaucoup de ces objets ont des choses très intéressantes à nous dire sur les propriétés des galaxies. Donc voici un exemple d'application où les réseaux neuronaux ont vraiment changé les choses. Je vais vous en montrer un autre. Il s'agit maintenant du domaine de la cosmologie. Ce que vous voyez ici, c'est basé à partir de données réelles, c'est la distribution de galaxies qu'on observe dans l'univers. Alors ici, nous, on est à gauche, okay, et depuis notre galaxie, quand on regarde au fin fond de l'univers, voici toute la distribution de galaxies qu'on observe. Elles sont visualisées ici avec la couleur apparente qu'on voit sur les images. Okay, donc les galaxies qui sont proches de nous apparaissent bleues, les galaxies qui sont plus loin apparaissent plus rouges. Okay. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un zoom out de tout ça. Alors oui, je peux peut-être aussi dire que chaque point de cette image, c'est une galaxie qui aurait à peu près ce genre de tête. Et donc pour chaque galaxie, on a une image et on a un spectre aussi. Et c'est à partir du spectre qu'on est capable d'estimer la distance de la galaxie. Donc ça nous permet d'avoir la distribution en 3D de ces galaxies autour de nous. Okay. Donc ça, c'est une toute partie de l'univers, okay, qui est proche de nous. Ce que je peux vous montrer maintenant, c'est la carte complète de l'univers, quasi complète. Okay. Ce que vous voyez ici, pareil, ce sont des vraies données qui viennent du Sloan Digital Sky Survey. On est tout en bas de cette image. Et ce que vous voyez, c'est la distribution de toutes les galaxies qu'on observe jusqu'à la limite qui est tout là-haut, qui correspond au premier flash de lumière, le fond diffus cosmologique, qui remonte à un instant court après le Big Bang. Okay. Donc ça, cette carte, elle a été obtenue, il a fallu 15 ans d'observation du ciel, pour collecter des millions de galaxies qui me permettent de faire cette carte qui est en 3D. Là, je peux simplement vous montrer une coupe de cette carte. Je ne peux pas tout vous montrer d'un coup. Mais ce que je vais pouvoir vous montrer pour que vous puissiez mieux comprendre cette carte, en fait, ça va être un film qui va nous faire voyager depuis là où nous sommes jusqu'aux dernières couches invisibles de l'univers. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer tout le ciel qu'on peut voir à l'œil nu. Et on va avoir des couches qui vont être de plus en plus profondes du ciel et on va traverser tout l'univers comme ceci. Alors je vais vous montrer ceci. Voilà tout le ciel qu'on pourrait voir à l'œil nu. Okay, donc là il s'agit d'un angle de 90 degrés. Vous pouvez peut-être reconnaître certaines constellations sur cette image. Et en fait maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on imagine qu'on ait des yeux super sensibles et on va aller voir les couches successives de l'univers qui vont être de plus en plus profondes. Et voilà ce qu'on observe. Donc maintenant chaque point, c'est une galaxie avec sa propre couleur. Là, on voit les galaxies qui sont très proches de nous. Et ce qu'on fait, c'est qu'on observe l'univers à des profondeurs de plus en plus importantes. Et ce qu'on observe ici, c'est tout ce réseau filamentaire de galaxies, ces amas de galaxies qui sont à l'intersection de ces filaments. On voit les galaxies avec les couleurs qu'elles ont sur les images. C'est toujours magnifique de voir ce film. Ce qui se passe, c'est que les galaxies au départ étaient bleues. Maintenant, elles deviennent de plus en plus jaunes parce qu'on observe l'univers à des distances qui sont de plus en plus lointaines. Donc, on voit moins les galaxies spirales qui sont assez faibles et on voit de plus en plus les galaxies elliptiques qui sont beaucoup plus brillantes en moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on a cette transition vers le jaune. Il est difficile d'observer les galaxies spirales. Donc, si on continue à observer l'univers à des profondeurs de plus en plus importantes, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ces galaxies elliptiques jaunes, elles vont commencer à apparaître de plus en plus rouges. Et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'on voit l'effet Doppler, le décalage vers le rouge, qui est dû à l'expansion de l'univers. Et maintenant, tout devient rouge. Ce qu'on voit ici, ce sont plein de galaxies elliptiques qui sont intrinsèquement jaunes, mais l'étirement de la longueur d'onde due à l'expansion de l'univers, en fait, les fait apparaître rouge pour nous. On continue à observer l'univers à des profondeurs de plus en plus importantes. Et on va arriver bientôt à un régime où les galaxies sont trop faibles, on ne les voit plus avec ce télescope. Et ce qui reste, tous ces petits points lumineux que vous voyez, ce sont des quasars. Et donc là, il s'agit de trous noirs supermassifs qui sont au centre de galaxies et qui, lorsqu'ils accrètent de la matière, deviennent extrêmement brillants. On peut les voir de l'autre côté de l'univers. Et donc ce qu'on voit ici, ce sont en fait ces quasars qui sont au centre de certaines galaxies. Ils émettent de la lumière qui est plutôt bleue. C'est ce que vous voyez ici. C'est pour ça qu'on a cette transition vers le bleu à nouveau. Pour ceux qui connaissent les détails techniques, on va arriver bientôt à Redshift 2 dans l'univers. Et en termes de... on remonte en même temps dans le temps, on est à peu près à 10-11 milliards d'années. Il y a 10 ou 11 milliards d'années dans le passé. On voit des quasars partout ici. Et en fait, si on continue à observer l'univers de plus en plus profond, le même effet de décalage vers le rouge, l'effet Doppler, va s'appliquer aux quasars. Et leur lumière bleue va devenir de moins en moins bleue et de plus en plus rouge. Et c'est ce qui est en train de se passer ici, à cette transition. Là, on est quasiment aux confins de l'univers. Il est très, très difficile d'observer tous ces objets. Ils sont extrêmement faibles. Et on arrive dans un régime où on ne voit plus rien. Okay, c'est ce qui s'appelle le Dark Ages. Et c'est une période de l'univers où les photons visibles ne peuvent pas nous atteindre aujourd'hui. Okay, c'est complètement obscur. Mais si on change de longueur d'onde et on passe en onde radio, on peut observer à ce moment-là le fond diffus cosmologique. Donc c'est une photo, à nouveau, qu'on voit, des vraies données. C'est le premier flash de lumière qui a été émis dans l'univers, juste après le Big Bang. Okay. Donc j'espère que ça vous a plu, et j'espère que ce film vous a permis de mieux comprendre cette carte de l'univers que je vous ai montrée. Okay. Au cours de ce film, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est déplacé du bas, on a regardé des couches successives jusqu'à la première lumière, le fond diffus cosmologique. Donc si on revient vers l'univers proche et si on zoome sur la distribution de galaxies, maintenant donc j'imagine que vous avez une meilleure idée de ce à quoi ça correspond, quand on regarde ce genre de données, en fait, et on essaye de décrire ce qu'on voit, on est dans le régime où on fait de la cosmologie. On ne s'intéresse pas à une galaxie ou quelques galaxies, on s'intéresse à l'univers dans son ensemble. Et donc on voudrait essayer de décrire toute cette distribution. Et j'espère que ça vous rappelle le mot-clé que j'avais utilisé au début, donc il s'agit de caractériser la texture de l'univers. D'une certaine façon, c'est un peu ça qu'on veut faire de temps en temps quand on fait de la cosmologie, c'est qu'est-ce que la texture de l'univers, quelle est la densité de l'univers, à quoi ressemblent ces fluctuations qu'on voit, qui sont dues au fait qu'il y a des endroits où il y a plus de galaxies que d'autres, quelles sont ces amplitudes de fluctuations, quelles sont ces formes, etc. Donc tout ça sont des questions qu'on aimerait poser, on aimerait y répondre de façon quantitative. Et donc, il s'agit de caractériser la texture de l'univers. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a maintenant, grâce à ces fameux réseaux de neurones, on a des moyens beaucoup plus puissants d'attaquer ces questions. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir enfin utiliser toute l'information, ou quasiment toute l'information, des données qui nous viennent de tous ces télescopes qui sont au sol ou qui sont dans l'espace, pour lesquels on a dépensé des ressources, des moyens considérables. Et en fait, ce qui s'est passé au cours des années, c'est que maintenant, grâce à ces nouveaux langages statistiques et informatiques, en fait, on obtient une vision de plus en plus précise, de plus en plus riche des données qu'on a réussi à observer. Okay, on n'a plus cet effet limitant qui était dû à une espèce d'entonnoir qu'on avait avant, qui était dû aux outils statistiques qu'on utilisait. Okay, on a un nouveau langage qui maintenant permet d'extraire toute l'information dont on a besoin. Le prix à payer pour ça, c'est qu'on n'extrait plus juste un ou deux coefficients pour mesurer les choses. Maintenant, le prix à payer, c'est qu'il faut manipuler des objets qui sont beaucoup plus gros. Okay, ces réseaux de neurones, comme je vous ai dit, peuvent avoir des tailles qui grandissent énormément. Et au final, l'information, le langage du réseau de neurones, il va être encodé dans toute une série de coefficients, 10 000 coefficients, 100 000 coefficients, en millions. Et maintenant, le problème, c'est que... voilà. Que veut dire ces coefficients? Comment les interpréter? C'est vraiment là maintenant où se joue, où est tout l'enjeu. Très bien. J'espère que je vous ai convaincu qu'il va se passer tout un tas de choses très intéressantes en astronomie. Okay. Cette intelligence artificielle, ces réseaux de neurones, ce machine learning, maintenant nous permettent d'extraire beaucoup plus d'informations. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il va se passer des choses fantastiques, mais essayons de regarder... une image un petit peu plus générale avec toutes les disciplines scientifiques, essayons de les comparer un petit peu. Alors, pour mettre tout ça en perspective, on va essayer de penser les choses de la façon suivante. Mon axe des X ici, je vais mettre des choses qui sont complètement ordonnées à gauche et complètement désordonnées à droite. Okay. Donc, à gauche, il s'agira par exemple de cristaux, okay, de structures qui sont complètement ordonnées, qui sont complètement régulières. Et à droite, il s'agit de gaz, de plasma ou de liquide, si vous voulez. Okay. Ça sont des objets typiques qu'on trouve en physique, en astrophysique. Okay. Maintenant, ces objets, parmi tout ce qui est possible dans la nature, restent assez simples. Okay. Ils ont une certaine complexité, mais si on met les choses en perspective, il reste plus simple que d'autres objets qu'on trouve dans d'autres types de domaines. Par exemple, si on observe la surface de la Terre, vue de satellite, on a une complexité qui est beaucoup plus importante. Okay? Si on regarde ce genre d'image, il y a beaucoup plus de variabilité, beaucoup plus de richesse que les images qu'on trouve en astronomie. Et si on continue, si on s'intéresse maintenant au monde biologique, on trouve une complexité énorme qui est quasiment sans limite. Okay? Et ce genre d'objet se situe à l'interface entre le monde ordonné et le monde désordonné. Okay? Donc différentes disciplines scientifiques s'attaquent à des types de données qui sont différents et donc s'attaquent à des types de complexités qui sont différentes. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en physique, presque par définition, on s'intéresse à des objets qui sont relativement simples. Okay? Les objets du monde physique, les objets qu'on trouve dans l'univers sont beaucoup, beaucoup plus simples que les objets qu'on trouve dans le monde biologique. Donc, les techniques de machine learning, les réseaux de neurones vont nous permettre de faire des choses fantastiques en astronomie, mais je ne pense pas qu'il va y avoir une révolution en astronomie. Okay? Parce que, comme on peut le voir ici, les objets d'études qu'on a restent à des niveaux de complexité relativement bas. Par contre, dans d'autres domaines, okay, il s'agit de l'observation de la Terre, il s'agit du monde biologique, il s'agit d'écologie, de sociologie, de neurosciences, etc., où les objets d'études sont beaucoup plus complexes, là, ma prédiction, c'est qu'il va y avoir des révolutions qui vont être permises grâce aux réseaux de neurones. Très bien, je vais finir avec les points clés de cette présentation, juste les quelques messages que j'aimerais que vous souveniez. Donc, on a vu que cette nouvelle technologie est apparue. On a commencé à vraiment bien la comprendre, à créer des réseaux qui peuvent croître en taille sur des ordres de grandeur. Ça vient de 2012, c'est assez récent. Les ordinateurs existaient depuis bien plus longtemps, Internet existait depuis bien plus longtemps, etc. Donc, c'est vraiment une nouvelle technologie qui est apparue, qui n'existait pas avant. Et donc, cette technologie nous permet d'aller de manipuler, d'analyser, de comprendre, de générer des objets de plus en plus complexes. Donc ça, c'est fantastique. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça parce que fondamentalement, ces réseaux de neurones nous permettent d'avoir une structure qui donne lieu à un langage qui est stable vis-à-vis des déformations possibles. Et c'est vraiment ça la clé dont on avait besoin pour s'attaquer à des choses de plus en plus complexes. Okay? Et donc du coup, on a ces nouveaux outils qui sont extrêmement puissants, qui nous permettent de faire tout un tas de choses qu'on rêvait de faire avant, qu'on peut commencer à faire. Ce qu'il faut dire aussi, et il faut se souvenir de ça, c'est que ces réseaux de neurones créent un langage interne. Ce langage est écrit dans une langue qui n'est pas la nôtre, qui permet de faire des choses très puissantes, mais ce langage reste assez mystérieux et assez opaque pour nous. Et beaucoup de gens comparent les réseaux de neurones à des boîtes noires, où on ne sait vraiment pas ce qui se passe à l'intérieur. Comme je vous ai montré, ils voient le monde de façon différente de la façon dont nous voyons le monde. Et donc, quand on les utilise, il faut garder en tête tous ces soucis possibles, où la question c'est si on infère des résultats, comment est-ce qu'ils vont dépendre de ces façons différentes de voir le monde. Donc il faut rester un petit peu attentif, il faut essayer de comprendre. Et je pense que le vrai challenge maintenant qui est devant nous pour les années à venir, c'est d'essayer de décrypter ce langage interne des réseaux de neurones qui est complètement mystérieux. Et très souvent, je pense que ce qui se passe à l'intérieur des réseaux de neurones est aussi mystérieux que ce qui se passe aux confins de l'univers, où on voit des choses exotiques comme la matière noire, l'énergie sombre, etc. Aujourd'hui, on a devant nous des systèmes qu'on a créés nous-mêmes et qui font des choses qu'on ne comprend pas complètement, avec beaucoup de mystères à l'intérieur. Donc le challenge pour les années à venir, c'est d'essayer de décrypter tout ça. Je vais m'arrêter ici, je vous remercie.
Eh ben merci beaucoup Brice, tu m'avais confessé juste avant de parler que tu avais très peu fait de présentation en français mais essentiellement en anglais, donc en faire une en français c'était un beau challenge, un beau défi que tu as parfaitement relevé. Il y avait quelques slides, quelques diapos qui avaient un peu d'anglais mais très peu, donc merci beaucoup d'avoir fait cet effort. Et donc alors il y a quelques questions, quelques commentaires sur le chat de YouTube, n'hésitez pas à en faire plus, je pense qu'il y aura quelques questions également dans le public, je vais passer parmi vous. Je vais commencer par une question qui était sur YouTube. Comment tu as dit, tu as montré l'exemple de l'ours là, en disant que c'était difficile, les réseaux de neurones n'arrivaient pas quand c'était un dessin, ou il y avait l'exemple du sweatshirt là, qui n'était pas reconnu par les réseaux de neurones. Est-ce que c'est une constante, toutes ces méthodes-là ont les mêmes difficultés avec un dessin ou ne reconnaissent pas un sweatshirt, avec ces dessins-là, déjà cette question-là, et puis est-ce que tu pourrais peut-être rentrer un peu plus dans les détails, expliquer un petit peu plus pourquoi ce sweatshirt, il est difficile à identifier pour un réseau de neurones.
Tout à fait. Alors, retournons là-dessus. Ok, alors, ce que je peux commencer par dire, c'est que, voilà, donc ça va dépendre du type de réseau et ça va dépendre de ce qu'il a appris pendant sa phase d'apprentissage. Tous les réseaux vont avoir, un certain type de problème. Okay, le type de problème va dépendre du réseau. Ce qu'on peut faire, c'est que voilà, si dans le troisième cas, le réseau n'a pas réussi à comprendre la forme de l'ours, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui faire apprendre des formes. Donc on peut lui donner des nouvelles données avec juste les formes d'ours. Le réseau va se mettre à apprendre encore plus. Et donc du coup, il sera capable de répondre à ce genre de questions. Mais bon, le problème ne s'arrête pas là, parce qu'on pourra toujours trouver des choses, des types d'images qui vont induire le réseau en erreur. Okay, on peut même construire de façon mathématique certains types d'images qui, on le sait, va mettre le réseau en erreur. Donc il y a cette histoire d'attaque des réseaux où on peut en fait designer, on peut créer certains types d'images qui, on le sait, vont induire le réseau en erreur. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un réseau qui a déjà été entraîné, et en fait on peut regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, et on peut trouver des régions qui vont correspondre à certains types d'images qui, on le sait, vont conduire à des erreurs. Alors le problème, c'est que c'est une histoire de chat et de la souris, ou de chicken and egg. C'est-à-dire que le réseau peut toujours apprendre plus, donc si on sait qu'il est induit en erreur sur certains types d'images, on peut lui donner plus d'images de ce type pour qu'il ne fasse pas ce genre d'erreur, mais on pourra toujours trouver un type d'erreur. En fait, c'est un petit peu la même chose du côté humain. Okay, on peut toujours, c'est le cas des illusions d'optique, par exemple. Okay, on a tout un tas d'images qui, en tant qu'humain, nous paraissent différentes de ce qu'elles peuvent vraiment être. Et en fait, ça nous dit donc certaines choses sur la façon dont fonctionne le cerveau. Et on peut apprendre à voir les illusions d'optique de façon différente pour ne pas être induit en erreur. Mais il pourra toujours y avoir d'autres types d'illusions qui nous induiront en erreur. Donc, on peut contourner ces problèmes, mais il reste toujours des nouveaux problèmes derrière. Et comme, en fait, on n'a pas de compréhension globale de ce qui se passe de façon interne dans le réseau de neurones, ce fameux langage reste assez mystérieux, on ne peut pas approcher le problème de façon générique, de façon globale, qui nous permet de résoudre tous ces problèmes de vulnérabilité des réseaux. Donc il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Ce sont des questions qui sont très importantes et qui effraient beaucoup de gens quand on sait que les réseaux de neurones sont utilisés pour les voitures qui sont autonomes, pour tout un tas, pour des décisions médicales par exemple, qui sont très importantes, détection des cellules cancéreuses par exemple. Il y a des réseaux de neurones qui sont utilisés aujourd'hui. S'il y a quelque chose de bizarre dans l'image qu'un humain reconnaîtrait directement, mais qui induit un réseau en erreur, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc il y a tout un tas de questions aujourd'hui sur les limites et les dangers possibles. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de théorie derrière. Les mathématiques des réseaux de neurones ne sont pas suffisamment matures pour qu'on puisse s'adresser à tout ça.
Voilà. Okay, merci. Alors sur un point moins dramatique, sur le coup du sweatshirt, est-ce que tu as moyen d'expliquer un peu pourquoi il se fait avoir?
Très bien, alors ma compréhension des choses, je n'ai pas regardé tout ça dans les détails, mais ma compréhension toute simple en regardant cette image, ce qui se passe, c'est que le sweatshirt qui est porté par ce monsieur a en fait dessus une espèce de scène d'avant-plan où on voit ici, en fait, on voit que c'est comme s'il y avait des gens qui étaient sur sa poitrine ici. Et en fait, le réseau qui a été entraîné sur des images normales n'a jamais vu de situation où des gens sont ici, qui paraissent être en arrière-plan, alors que devant, il y a en fait quelqu'un avec une tête au-dessus. Il n'a jamais vu ce genre de configuration. Nous, en tant qu'humains, on reconnaît ça directement, mais en fait, le réseau n'a jamais été mis dans ce genre de situation auparavant. Et en fait, il porte beaucoup plus d'attention sur le t-shirt que sur la tête de ce monsieur, et donc il ne le voit pas.
Voilà. Ok, merci. Y a-t-il des questions, des commentaires dans la salle? J'arrive.
Bonsoir. Est-ce que vous êtes aussi en train de dire que ce n'est pas la peine d'augmenter les tailles de réseaux de neurones, mais de mieux les exploiter pour ceux qui existent et de mieux les comprendre?
Alors, tout dépend de ce que l'on souhaite faire. Si le but est de regarder ce genre d'images, par exemple, pour analyser ce genre d'images qui ne sont pas trop grosses, pas trop complexes, on n'a pas besoin de gros réseaux. Okay, ça s'est fait avec, On peut faire ça avec 10 000 paramètres, 100 000 paramètres, quelque chose comme ça. On n'a pas besoin de millions de milliards. Donc il y a des cas, suivant le cas, on peut utiliser un réseau qui est relativement petit. Mais ce qu'on aimerait vraiment dans un cas comme ça, même si le réseau est petit, c'est d'essayer de comprendre ce que ces 10 000 paramètres nous disent. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est écrit dans une langue mystérieuse qu'on n'arrive pas à décrypter. On aimerait beaucoup savoir ce que le réseau a appris, mais on n'y a pas accès. Donc la taille du réseau, il nous faut des réseaux de plus en plus gros quand on s'attaque à des objets, des images de plus en plus grosses et des objets de plus en plus complexes, comme les photos qui sont ici, qui ne sont pas des photos, qui sont générées par des réseaux neurones. Pour faire ce genre de choses, on ne peut pas faire ça juste avec 10 000 paramètres, il en faut tout un tas de millions ici. Donc on est dans un régime qui est plus gros, mais qui reste relativement petit par rapport à d'autres réseaux qui existent dans le monde de l'industrie, qui manipulent des milliards de paramètres. Donc la taille du réseau dépend de la complexité, de la taille des données qu'on veut manipuler. Mais dans tout un tas de cas scientifiques où on n'a pas à traiter des images qui sont vraiment énormes, où on est capable en tout cas de découper le dataset dans des petites images sans perte d'information, on peut utiliser des réseaux qui sont beaucoup plus modestes, mais dans tous les cas, on aimerait beaucoup comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est très frustrant de savoir que le réseau a été capable de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire de façon statistique avec des outils mathématiques classiques. Et on aimerait beaucoup savoir comment est-ce que le réseau y arrive. Il y a des avancées qui sont faites. Il y a tout un tas de chercheurs ici à l'École normale de Paris qui travaillent là-dessus avec tout un tas de résultats intéressants. Mais il reste beaucoup de questions assez fondamentales.
Merci. Peut-être une autre question sur le chat, ou justement par rapport à ces erreurs dont on parlait, le coup du sweatshirt ou de l'ours. Oui. Est-ce qu'il y a des erreurs similaires comme ça dans les galaxies, les exemples que tu as montrés, les reconnaissances où la machine se fait avoir alors que l'œil humain ne se ferait pas avoir?
Je pense que c'est encore un peu trop tôt. À ma connaissance, je n'ai pas de comparaison aussi évidente, aussi forte, mais si on regarde les galaxies et si on se... Ok. Si on regarde... Ok. Quand on a un jeu de données comme ça, qui va être énorme, avec des millions de galaxies, on va commencer à ordonner les galaxies en utilisant des réseaux de neurones. On n'a pas encore tout inspecté pour savoir si le réseau a fait du bon boulot partout. En fait, ces technologies arrivent en astrophysique avec un certain délai par rapport aux applications qu'ils ont eues dans d'autres domaines. Donc en fait, en astrophysique, d'une certaine façon, on commence, en fait, ça fait quelques années déjà, mais on commence et on a encore beaucoup à faire dans l'utilisation des réseaux de neurones. Il y a des tests qui ont été faits, mais pas suffisamment encore pour vraiment savoir si ça fonctionne tout le temps bien comme on le veut. Donc on a beaucoup à faire dans cette direction. On sait qu'il y a des problèmes potentiels, mais en tout cas, à ma connaissance, on n'a pas encore identifié un type de problème particulier qui va nous affecter en astrophysique.
D'accord, merci. D'autres questions, commentaires dans la salle? Oui.
Bon, c'était tout à fait remarquable. J'ai une question tout à fait ponctuelle sur un petit détail. Vous avez montré des synthèses de visages. Je voudrais savoir ce qu'on met à l'entrée du réseau pour obtenir ce visage.
Alors, c'est un réseau qui a simplement été entraîné sur une collection, un grand nombre d'images de visages, qui sont des images qui viennent d'Internet, de Facebook et autres. Donc, ce sont des images aléatoires de visages de gens. Donc, c'est la seule entrée qu'il y a dans ce réseau. Le réseau construit sa représentation interne, sa compréhension des images. Et donc ça, c'est encodé avec des millions de paramètres qu'on ne comprend pas très bien. Mais on sait qu'on peut activer cette région, cette représentation, on peut se placer dedans, et on peut activer un certain point dans cette région. Et ensuite, on peut utiliser, comme je vous ai montré, le réseau dans l'autre sens pour créer un visage. Donc la seule entrée, ce sont juste à la base des images de visage, c'est tout. Le réseau apprend... Et le réseau construit sa représentation interne, son langage interne pour décrire les images. Et donc une fois qu'on a ce langage, on peut l'imaginer comme une espèce de nuage de paramètres. Ensuite, on peut aller à n'importe quel endroit dans ce nuage et on sait que ça va décrire l'image d'un visage humain. Voilà. Ah, une autre question, je crois qu'il y a...
Ma question, c'était vraiment, il y a un nuage, et comment on dit au réseau, je choisis ce point du nuage.
Ah, donc si vous allez sur ce site web, okay, ce point, c'est un point qui est décidé de façon complètement aléatoire. Donc en fait, on peut demander autant d'images qu'on le veut. Dans cet espace, on va prendre des points qui sont complètement choisis au hasard. Et chaque point correspond à une image. Et en fait, on peut même se déplacer, on peut avoir une trajectoire, on peut se déplacer de façon continue, et on va avoir une image qui va changer de façon continue, on va pouvoir passer d'une personne A à une personne B de façon complètement continue. Vous avez peut-être vu ce genre d'animation. Donc voilà ce que nous permet de faire un réseau. Donc en fait, l'entrée, c'est juste des images, et après, une fois qu'on a cette représentation, ben, on peut jouer avec, et on peut l'explorer, et voir tout ce qu'elle nous permet de faire.
Merci. Une autre question, j'arrive. Une autre question peut-être sur le chat, sur comment les astronomes sont-ils sensibilisés à l'analyse de ces données massives prédigérées par l'intelligence artificielle. En gros, comment ces techniques sont diffusées dans la communauté des astrophysiciens.
Comment est-ce que ces techniques sont perçues? C'est une question très intéressante. À cause des problèmes potentiels dont j'ai parlé, et aussi du fait que voilà, il s'agit d'une technologie nouvelle, comme c'est souvent le cas, on a des réponses qui sont très polarisées. On a une partie de la communauté qui est très, qui n'est pas encore convaincue, qui voudrait être plutôt safe. Et on a une autre partie de la communauté qui est complètement enthousiaste, et peut-être même trop enthousiaste, et qui voudrait utiliser ces réseaux de neurones pour faire presque trop de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est très polarisé, c'est devenu très bimodal. On a une partie de la communauté, ce qui correspond souvent à des gens, des collègues qui sont plus seniors, qui voient cette nouvelle technique qui arrive un petit peu de nulle part, qui ont beaucoup de doutes quant à son efficacité, quant à ses dangers potentiels, etc. Donc là, on voit qu'en fait, c'est l'expérience qui joue et qui dit « Oh, il ne faut peut-être pas trop se précipiter ». Et à côté de ça, il y a plein de jeunes qui sont très enthousiastes, qui veulent apprendre ces nouvelles techniques, qui savent que ça n'est que le début, que ça veut dire qu'il va y avoir toute une évolution qui va durer des années, et donc qui utilisent ces réseaux de neurones pour explorer tout un tas de questions en astrophysique. Donc la réaction de la communauté ou la perception de ces réseaux de neurones, ça fait pas encore, c'est pas, tout le monde n'a pas la même position vis-à-vis de ces nouvelles techniques, mais ce qui est sûr, c'est que c'est en évolution extrêmement rapide. Ça a complètement révolutionné tout un tas d'autres domaines et tout un tas d'applications de la vie de tous les jours. Et je pense qu'on peut en attendre beaucoup en astrophysique, comme j'en ai parlé précédemment. Et je pense que les réticences de certains, très probablement, vont s'apaiser avec le temps. Plus on va tester ces techniques, plus on va démontrer qu'on peut faire des choses intéressantes avec, et plus on va obtenir de nouveaux résultats.
Voilà. D'autres questions ? Une question de notre directeur.
Est-ce que tu pourrais commenter un peu sur le fait qu'il faut apprendre, il faut utiliser des millions, voire des dizaines de millions d'images pour apprendre à reconnaître un chat et un enfant, on lui montre un chat 4 fois et il le repère. Alors, il n'a pas la même capacité, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui nous paraît un peu mystérieux. Et donc, qu'est-ce que ça te suscite comme commentaire ?
Tout à fait. Donc, juste répéter la question, résumer la question. Ces réseaux de neurones ont besoin de beaucoup d'images pour apprendre, alors qu'un enfant va voir un chat pendant quelques secondes et va être capable de reconnaître d'autres chats directement. Alors, c'est sûr que ces deux situations ont des connaissances préacquises qui sont très différentes. Okay, un petit enfant a déjà vécu pendant des années, il a vu beaucoup de choses dans sa vie, alors que le réseau de neurones n'a jamais encore rien vu. Il doit apprendre des formes très basiques qui commencent de zéro. Ce qu'on a vu, c'est que même si on laisse ces deux systèmes apprendre, au final, on a des compréhensions du monde qui sont très différentes. Maintenant, ce qui se passe avec les réseaux de neurones, c'est qu'ils nous viennent, ce sont des ingénieurs qui les ont construits d'abord. Okay. Et aujourd'hui, on a des réseaux de neurones qui fonctionnent, mais on n'a pas encore la théorie mathématique derrière qui nous permet de comprendre comment ils fonctionnent. Il y a des avancées qui sont faites sur ces dernières années, et on sait que ça va continuer encore. Et en fait, mieux on les comprend, plus on arrive à améliorer l'architecture de ces réseaux pour avoir besoin de moins en moins de données pour leur entraînement. Et en fait, si on regarde en fonction du temps la taille des données qu'il faut pour entraîner un réseau pour faire une certaine tâche, plus le temps avance, au cours des années, en fait, on a besoin de moins en moins de données parce qu'on comprend ces réseaux de mieux en mieux. On est capable d'injecter certaines propriétés directement à l'intérieur du réseau, comme des symétries de translation, de rotation, etc. Si on les injecte directement à l'intérieur du réseau, le réseau n'a pas besoin de les apprendre. Et donc, du coup, au lieu d'avoir besoin d'un million d'images, ben, il n'en aura besoin que de 10 000. Et si on continue à injecter certaines connaissances ou certaines propriétés comme ça à l'intérieur du réseau, on peut espérer arriver à un régime où il aura besoin d'un très petit nombre d'images pour apprendre, qui sera peut-être comparable à l'équivalent humain.
Ce que tu dis, c'est qu'en fait, Darwin nous a aidé à développer des bonnes architectures.
Tout à fait. Tout à fait. Et j'en ai pas parlé pendant cette présentation, mais en fait, il y a eu beaucoup d'influences de la biologie et des neurosciences qui ont permis justement de comprendre comment créer les architectures des réseaux de neurones. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les premières couches de ces réseaux de neurones sont très semblables aux premières couches de neurones qu'on a, nous, dans notre cortex visuel. Et en fait, c'est avec de l'inspiration qui vient de la biologie, c'est comme ça qu'on a pu concevoir ces fameuses couches, et on sait qu'en fait ces couches font des choses très similaires. Alors aujourd'hui, on a cette connaissance que pour les premières couches. Si on va dans les couches plus profondes, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les réseaux de neurones artificiels. Il y a aussi beaucoup de mystères dans ce qui se passe dans le cerveau humain. Et en fait, je pense que ce qu'on va voir avec les années qui arrivent, c'est qu'on va pouvoir explorer ces deux systèmes dans des couches de plus en plus profondes et avoir des compréhensions beaucoup plus fondamentales de la façon dont ils perçoivent le monde. Et il y aura peut-être tout un tas d'influences qui va venir de la biologie, qui va faire bénéficier les réseaux de neurones artificiels. Ou peut-être, c'est en étudiant les réseaux de neurones artificiels qu'on va pouvoir faire des découvertes en biologie, en neurosciences.
Merci. D'autres commentaires sur le chat de YouTube qui sont assez classiques pour ces questions-là, mais des questions qui se posent. Ça pose évidemment des questions liées aux libertés individuelles, au respect de la sphère privée, etc. On est un petit peu dans l'astrophysique, évidemment, mais c'est quand même des questions qui se posent. As-tu des commentaires, des avis là-dessus en tant que spécialiste de ces techniques?
Alors, c'est assez général comme question. Il y a tout un tas de...
Il y avait une question notamment sur les législations en cours, les législations qui sont bien plus souvent lentes à avancer que les développements technologiques.
Quand il y a tout un tas de décisions prises par des décisions médicales, des décisions légales prises par les réseaux de neurones, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la réponse donnée par les réseaux de neurones dépend énormément des données avec lesquelles il a été entraîné. Okay? Et donc ce qui est très important, il y a tout un champ de recherche maintenant qui s'ouvre là-dessus, parce que c'est vraiment fondamental, c'est s'assurer que dans les données d'apprentissage, on ait toutes les représentations dont on a besoin. Okay? Soit qu'il s'agisse de race, qu'il s'agisse de tout un tas de propriétés possibles, il est très important que l'échantillon d'apprentissage soit représentatif de la population sur laquelle on veut appliquer un réseau de neurones. Pour tout un tas de décisions médicales, en fait, si on regarde par exemple les réseaux de neurones qui détectent les cellules cancéreuses, les tissus humains n'ont pas les mêmes propriétés, ils n'apparaissent pas de la même façon exactement sur les images pour des races diverses aux quatre coins du monde. Et donc si on entraîne un réseau juste sur un certain type de personne, on l'applique sur un autre type, en fait ça ne va pas forcément marcher avec la même performance, donc il faut s'assurer que dans ces données d'entraînement, on ait toutes les représentations possibles. Donc voilà, il y a ce genre de questions qui maintenant deviennent très importantes, parce que ces réseaux sont très vite déployés à très grande échelle. Il y a tout un tas de réseaux qui fonctionnent quasiment en permanence sur les smartphones, pour tout un tas de décisions, les moteurs de recherche, utiliser les réseaux de neurones, ils sont partout autour de nous et avec le temps, il va y en avoir de plus en plus. Et donc, il faut vraiment s'assurer qu'ils soient suffisamment sécurisés, suffisamment robustes et qu'il n'y ait pas de biais de décision dans une direction ou dans une autre. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette direction.
Merci. D'autres commentaires ou questions dans la salle? Oui.
Oui, il y a une question... quelque chose qui m'intrigue, enfin le mot est un peu simpliste. Si je vois le site web qui est là-haut, est-ce que derrière ça, j'aboutis sur une sorte de data center, quelque chose qui, je ne sais pas matériellement comment ça se matérialise. Oui, voilà, il y a des machines derrière.
Alors, je ne connais pas tous les détails techniques, mais ce que je suppose, c'est que... Non, derrière ce site web, c'est juste un ordinateur avec quelques cartes graphiques, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'un système monumental. C'est quelque chose qui est de ce genre, de cet ordre de grandeur. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, la phase d'apprentissage est une phase de calcul assez lourde, mais une fois que le réseau a appris, quand on veut l'utiliser, ça par contre, voilà, il suffit juste d'un téléphone pour l'utiliser. Je n'ai pas besoin d'un gros ordinateur, c'est vraiment très rapide et c'est un genre de calcul qui est vraiment très léger. Donc une fois que l'apprentissage a été fait, il peut être fait sur une grosse machine, on peut ensuite le donner à n'importe quelle machine, l'installer sur n'importe quelle machine et ça marche en une fraction de seconde.
Merci. D'autres questions, commentaires dans la salle ? Oui ?
Est-ce qu'il y a des sujets de recherche en cosmologie très actuels et très spécifiques qui intéressent et qui attirent beaucoup de chercheurs ? Ou alors c'est tout le monde qui cherche un petit peu dans son coin à essayer d'exploiter des images et du coup, il y a un grand nombre de publications dans plein de directions différentes.
Ok, donc en astrophysique, les réseaux de neurones sont utilisés dans tous les champs de l'astrophysique, dans toutes les sous-disciplines, dans quasiment toutes les sous-disciplines, on trouve maintenant des réseaux de neurones dans toutes les publications. Parce que j'ai montré la croissance incroyablement rapide des publications en astrophysique avec les réseaux de neurones, ça concerne quasiment toutes les disciplines de l'astrophysique. Dès qu'il y a un petit peu de complexité, les réseaux de neurones vont pouvoir faire des choses très utiles. Si on regarde la classification des galaxies, il y a des challenges. De la même façon qu'il y avait un challenge avec ImageNet pour détecter des chats, des chiens, des voitures dans les images, on a des challenges en astronomie. On va comparer différentes techniques, différents types de réseaux de neurones pour faire cette classification des galaxies. Donc là, au niveau mondial, il va y avoir différentes équipes qui vont entrer en compétition pour voir quelles sont les meilleures techniques. En cosmologie, il y a beaucoup de recherches qui est en train d'être faites sur quelles sont les meilleures façons d'extraire l'information cosmologique de toutes ces données où on a la distribution de millions de galaxies. Donc ça, c'est un champ de recherche qui est très actif. À ma connaissance, il n'y a pas encore eu de challenge. On a directement testé des réseaux de neurones différents. Il y a des challenges qui existent avec des outils statistiques différents. Mais je pense qu'il s'agit juste il faut attendre très peu de temps pour qu'il y ait un challenge aussi avec des réseaux de neurones dans ce domaine. Ça, c'est un champ de domaine qui est très, très actif. Une des raisons, c'est qu'il y a tout un tas de missions spatiales qui vont bientôt partir, commencer à acquérir des données. Il y a des gros télescopes qui sont construits sur le sol, qui vont aussi voir leur première lumière très bientôt. L'enjeu est énorme. Les moyens, les ressources qui sont mis derrière sont énormes. Ce sont des centaines de millions d'euros ou des milliards d'euros. Donc, à la fin, être capable d'extraire toute l'information de la meilleure façon possible est un enjeu très, très important. Et d'une certaine façon, la cosmologie, c'est ça. La cosmologie, c'est de prendre toutes les données qu'on a, distribution des galaxies, le fond diffus cosmologique, etc., et d'essayer d'en extraire le maximum d'informations possibles. Parce que quand on observe l'univers dans son ensemble, on n'observe qu'un seul univers. Donc, d'une certaine façon, c'est assez réduit. Comme vu des choses, et donc étant donné qu'on n'en observe qu'un seul, vraiment l'enjeu c'est d'extraire toute l'information possible, donc c'est un sujet de recherche vraiment très actif.
Vous mentionnez que c'était le sujet du dernier colloque professionnel.
Et exactement, il y a eu ici, juste il y a quelques mois, à l'IAP, un colloque international sur l'utilisation des réseaux de neurones en astrophysique, et beaucoup des présentations qui ont été données lors de ce colloque concernaient des études de cosmologie avec des réseaux de neurones. Donc il s'y passe beaucoup de choses.
Et sont disponibles sur notre chaîne.
Et oui, toutes les présentations, alors qu'ils sont en anglais pour le coup et très spécialisées, sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Institut d'astrophysique de Paris. On a les conférences générales comme ça, mais aussi des conférences plus spécialisées. Donc les gens qui veulent s'intéresser plus en détail à ces questions, évidemment, peuvent se reporter sur ce site. Y a-t-il d'autres questions et commentaires pour finir dans l'amphithéâtre ou sur Internet ? C'est fini là ? Moi, peut-être, j'en ai peut-être une dernière sur, par rapport à la phrase que tu citais de Richard Feynman, « I cannot create, I do not understand », ce que je ne crée pas, je ne comprends pas. Et donc, bah, par rapport à ce que tu as présenté là, donc on arrive à recréer des choses avec ces techniques-là, mais sans toujours bien les comprendre, finalement.
Sans toujours bien les comprendre, exactement. Et ce qui est très frustrant, c'est qu'on sait que la compréhension, elle est là, dans ce réseau de neurones qu'on a créé nous-mêmes, dans cette boîte noire. Le problème, c'est qu'elle est écrite dans un langage qu'on ne sait pas décrypter pour l'instant. Donc, la réponse est devant nous. Il va falloir essayer de comprendre ce que ça va nous dire. Voilà.
Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Brice, encore pour cette conférence. On a plein de messages, des remerciements, etc. Merci beaucoup. Et donc, bah, merci à vous tous d'être venus ici ce soir à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Merci à ceux qui nous ont suivis sur notre chaîne YouTube. Et donc, on se retrouve pour notre prochaine conférence à l'IAP. Vous pouvez consulter notre programme sur notre site internet. Voilà, merci, bonsoir.